Fortuné du Bois Gobet, Le crime de l'opéra, tome 1, La loge sanglante. Chapitre 1. C'est une histoire d'hier. Le boudoir était tendu de soie bouton d'or, parce qu'elle était brune, cette merveilleuse Julia d'Orcival, qui tenait si bien son rang à la tête du grand état-major de la galanterie parisienne. Un feu clair brûlait dans la cheminée, garni de chenets Louis XVI, des chenets authentiques où s'étaient posés les petits pieds des belles du Versailles d'autrefois. La lueur adoucie d'une lampe en porcelaine du Japon éclairait le réduit capitonné où n'étaient admis que les intimes. On n'entendait pas d'autre bruit que le roulement lointain des voitures qui descendaient le boulevard Malesherbes et le murmure de l'eau bouillante qui chantait sa chanson dans le samovar de cuivre rouge. Pourtant, Julia n'était pas seule. Près d'elle, à demi couché sur une chaise longue, un jeune homme, plongé dans un vaste fauteuil, tortillait sa moustache blonde et regardait d'un œil distrait une terre cuite de Clodion, représentant des bacchantes lutinées par des faunes. L'élégant cavalier ne songeait guère à cette œuvre d'art, pas plus que la dame ne songeait au splendide tableau de Fortuny qui rayonnait en face d'elle et qu'elle avait payé une somme folle. Et s'il se taisait, ce n'était pas qu'ils n'eussent rien à se dire, car ils s'observaient à la dérobée comme deux adversaires d'égale force s'observent avant d'engager les épées. Un viveur expérimenté aurait jugé à première vue qu'entre ces amoureux il allait être question de choses sérieuses. Un auteur dramatique aurait flairé une situation. Ce fut Julia qui attaqua la première. « Gaston, dit-elle en feignant d'étouffer un bâillement, vous êtes lugubre ce soir. »« Il y a des jours où j'ai des idées noires, répondit Gaston. « Pourquoi pas des vapeurs comme une jolie femme ?»« Je puis bien avoir des nerfs. »« Oui, mais quand vos nerfs sont agacés, il serait charitable de ne pas contraindre votre ami de cœur » à s'enfermer avec vous. Oh, s'enfermer! Parfaitement, mon cher! Vous savez très bien que le lundi est mon jour d'opéra, et vous me faites dire ce matin par votre valet de chambre que vous avez résolu de me consacrer votre soirée. J'obéis sans murmurer à monseigneur et maître. J'envoie ma loge à Claudine Rissler, qui y amènera, je le crains, des gens de mauvaise compagnie. Je pousse le dévouement jusqu'à préparer de mes blanches mains ce thé vert que vous aimez tant. Je me fais coiffer à votre goût, quoique les cheveux relevés m'enlaidissent, et j'attends mon Gaston en rêvant de papillons bleus. Patatras, Gaston arrive avec une figure d'enterrement. Voyons, mon cher, qu'avez-vous? Si vous jouiez à la bourse, je croirais que vous venez d'y perdre toute votre fortune entre midi et 3 heures. Ce discours, commencé sur un ton assez aigre, finissait presque affectueusement. Et Gaston ne pouvait guère le prendre de travers. Mais le sourire que les doux reproches de Julia amenèrent sur ses lèvres n'était pas de bon aloi. On aurait juré que le jeune amoureux regrettait d'avoir manqué l'occasion d'une querelle. « Vous avez raison, dit-il, je suis insupportable, et je mériterais que vous me missiez à la porte. Que voulez-vous? Ce n'est pas ma faute si la vie que je mène m'ennuie. Bon, voilà maintenant que vous me dites une impertinence. « Pas du tout. Je parle de ma vie de désœuvrée, de cette existence qui se dépense au cercle, aux premières, aux courses, et chez Julia d'Orcival. De la vie que mon ami Nointel appelle la vie au gardénia, » reprit Gaston, sans relever la pierre que la dame venait de jeter dans son jardin. « À propos de gardénia, vous savez que c'est ma fleur de prédilection. Est-ce votre ami Nointel qui vous a conseillé de ne pas m'envoyer de bouquet ce soir ?» Nointel ne me donne pas de conseils, et s'il m'en donnait, je ne les suivrais pas. Pourquoi? Ce joli capitaine est un sage qui vit heureux avec sa petite fortune. Vous qui avez 40 000 francs de rente et qui en aurez 100 000 quand vous aurez hérité de votre oncle, vous feriez fort bien de prendre modèle sur votre ami. Il ne joue pas et on ne lui a jamais connu de maîtresse sérieuse. Imitez-le, mon cher, puisque vous enviez son bonheur. » Julia parlait maintenant d'un ton sec, et les mots partaient de ses lèvres comme des flèches. Elle cherchait évidemment à piquer son amant pour l'obliger à démasquer son jeu, et elle y réussit. « Ma chère, dit Gaston, je ne songe à imiter personne, mais j'ai 29 ans et... « Et vous êtes d'avis qu'il est temps de vous marier ?» Le jeune homme ne répondit pas. Un éclair passa dans les grands yeux de Julia, mais sa figure ne changea pas d'expression. Et ce fut avec un calme parfait qu'elle reprit. « Alors, vous allez vous marier ?»« Moi ? Jamais !» La réponse fut faite avec tant de conviction qu'elle devait être sincère. Et Julia changea aussitôt ses batteries. « Pourquoi ne vous mariez-vous pas » dit-elle doucement. « Vous êtes riche, bien né, bien apparenté. Votre père occupait une haute position dans la magistrature. Votre oncle est juge à Paris. Votre famille tient à la grande bourgeoisie qui vaut la noblesse. Vous trouverez facilement une héritière aussi bien dotée par la nature que par ses parents. Je vous répète qu'il ne s'agit pas de cela. » « C'est singulier, » continua Julia. Le proverbe prétend qu'un malheur n'arrive jamais seul. Croiriez-vous que moi aussi je suis en péril de mariage ?»« Oh !» fit Gaston d'un air assez incrédule. « Votre étonnement n'est pas poli, mais il ne me blesse pas. Je sais fort bien que je n'ai pas pris le chemin qui mène à la mairie et à l'église. J'aurais pu le suivre, car j'ai été fort bien élevée. J'ai mon brevet d'institutrice, mon cher, mais j'ai préféré les sentiers fleuris, au bout desquels on trouve un hôtel et des titres de rente. C'est pourquoi je ne puis plus épouser un homme comme vous, mais rien n'empêche que j'épouse un étranger. Les préjugés s'arrêtent à la frontière. Un étranger ? Vous quitteriez la France ? Sans doute. Une couronne de comtesse vaut bien qu'on s'expatrie, et en ce moment, il ne tient qu'à moi de devenir comtesse. Dans quel pays ? Demanda Gaston avec une pointe d'ironie. « En Pologne, vous connaissez le comte Golimine ? Celui qu'on a blackboulé à mon cercle ? Oui, certes, je le connais. De vue, je le sais, mais de réputation aussi. Et cette réputation est détestable, n'est-ce pas ? C'est vous qui l'avez dit. Vous savez que le comte m'a follement aimé il y a 3 ans. Vous auriez pu m'épargner le désagrément de m'en ressouvenir. Et que j'ai rompu avec lui. » Quoiqu'il dépensât royalement une très grosse fortune, dont tout le monde suspectait l'origine. Tout le monde et moi-même. C'est parce que je la suspectais que j'ai quitté Golimine. Mais je puis vous affirmer qu'il a été jugé trop sévèrement. L'or qu'il a semé à pleine main avait été loyalement gagné par lui en Amérique. Au jeu ? Non, dans les mines de Californie. C'est la grâce que je lui souhaite. Et moi seul sais ce que vaut au juste ce slave que tout Paris acceptait quand il était riche. C'est un aventurier, ce n'est pas un escroc. Il a commis des actes blâmables et il a fait des actions héroïques. Je ne sais comment définir cette étrange nature. Vous avez lu les romans de Cherbuliez ? Eh bien, le comte Golimine tient tout à la fois de Ladislas Bolski et de Samuel Braul. De Samuel Braul, surtout. Comme Samuel, il a été aimé par une grande dame, par plus d'une, mais lui aussi il a aimé, il aime avec passion. Vous, sans doute. Oui, moi. Et il est homme à me tuer et à se tuer si je refuse de l'épouser. Il me l'a écrit. Vous ne me dites pas cela, je suppose, pour que je vous donne mon avis sur la question de savoir ce que vous avez à faire. Non, car je suis décidée. À quoi ? À ne jamais revoir Venceslas. Il s'appelle Venceslas, il est complet. Je vous félicite de cette résolution, ma chère Julia. Et vous trouvez que j'ai peu de mérite à refuser un mari taré et ruiné ? Vous avez raison, car je ne l'aime plus. Vous l'avez donc aimé ? Pourquoi ne l'avouerais-je pas ? Il est beau, il est brave, il a cette audace, ce dédain de l'opinion des sots, ce mépris du danger qui plaise tant aux femmes. S'il me faisait comtesse, il saurait m'imposer au monde. Que suis-je d'ailleurs, moi ? Une irrégulière ? Je ne dérogerais pas en épousant un irrégulier. Mais je vous l'ai dit, Gaston, je ne l'aime plus. Et je me laisserais tuer par lui plutôt que de lier ma vie à la sienne. « Vous êtes tragique, ma chère, » murmura le jeune homme d'un air plus ennuyé que fâché. Évidemment, la tournure que l'entretien avait prise lui déplaisait. Il n'était pas venu chez Julia pour parler d'amour, et il donnait à tous les diables ce polonais qu'elle lui jetait à la tête, comme si elle eût pris à tâche d'empêcher la conversation d'aboutir. Il ne tortillait plus sa moustache soyeuse, mais il donnait d'autres signes encore moins équivoques d'embarras et d'impatience. Pendant qu'il s'agitait sur son fauteuil, la porte du boudoir s'entr'ouvrit et une figure de camériste du demi-monde, nez pointu, teint blême, bouche railleuse. « Qu'y a-t-il ? » demanda sèchement Julia. « Je n'ai pas sonné. »« Madame n'a pas sonné, mais j'aurai un mot à dire à madame, » répondit la soubrette d'un air confidentiel. « Dis-le, pourquoi tant de mystère ? Je n'ai pas de secret pour monsieur Darcy. »«
Pardon, madame, c'est que... il y a quelqu'un qui demande à parler à madame. »«
Quelqu'un ? Qui cela ? Je t'avais défendu de recevoir. » La femme de chambre garda un silence prudent. Mais Gaston, qui lui tournait le dos, vit très bien dans la glace que ses yeux parlaient.
« Que signifient ces mines ? » demanda madame d'Orcival. « C'est le comte qui est là ?»
Évidemment, la soubrette n'avait pas prévu cette interpellation. Elle savait son métier, et elle n'était pas accoutumée à annoncer devant le roi régnant un roi détrôné. Mais elle ne se déconcerta point, et elle répondit, si bas que Gaston l'entendit à peine.
« Oui, madame, c'est le comte, mais madame peut croire qu'il est rentré malgré moi. Le valet de pied et le cocher sont sortis, je n'ai pas pu, moi toute seule, l'empêcher de forcer la consigne et de me suivre jusque dans le salon. »
« Oh, il est dans le salon !» s'écria madame d'Orcival. « Fort bien, j'y vais. Retourne dans ma chambre à coucher et n'en bouge pas que je ne te sonne. » La camériste disparut comme elle était entrée, sans bruit, et elle referma la porte avec des précautions qui dénotaient une grande expérience des situations scabreuses. Au premier mot significatif de ce court colloque, Gaston s'était levé.
« C'est le comte Goulimine ? » demanda-t-il.
« Mon Dieu, oui, répondit Julia. Il m'a écrit ce matin qu'il voulait me voir avant de quitter la France. Il part demain. Je lui ai fait dire que je ne le recevrais pas, mais je m'attendais à une incartade de ce genre. Ce sera la dernière. Je veux en finir ce soir avec lui. »
« Et moi, je m'en vais, dit Gaston, avec un empressement que madame d'Orcival remarqua sans doute, car elle reprit froidement. « Si vous cherchez un prétexte pour me quitter, vous n'aurez pas de peine à en trouver un de meilleur. Il n'y a plus rien entre le comte et moi, et je vous prie de rester ici. L'entrevue sera courte, je vous le promets, et à mon retour, j'aurai une explication avec vous. »
Ayant dit, Julia sortit sans laisser à son amant le temps d'ajouter un seul mot. Gaston, en cette occurrence, manqua de présence d'esprit, mais il faut avouer qu'il se trouvait dans un cas des plus épineux. Retenir madame d'Orcival malgré elle, c'eût été ridicule. On ne violente pas une femme. Partir, c'était impossible. Le boudoir n'avait qu'une issue. Et pour en sortir, il fallait traverser le salon où le comte attendait. Passer sous les yeux d'un rival et lui céder la place, ou bien chercher querelle à ce rival et le mettre à la porte, Gaston avait à choisir entre ces deux parties. Et il aurait volontiers pris le dernier s'il avait eu affaire à un homme de son monde. Mais la perspective d'un duel avec ce slave déclassé ne lui souriait guère, et c'eût été joué de malheur que d'être forcé de rompre avec éclat une liaison qu'il voulait dénouer à l'amiable. Car Julia ne s'était pas trompée. Gaston Darcy était décidé à se séparer d'elle. Avec sa clairvoyance de femme, elle avait lu son dessein dans ses yeux. Et comme elle tenait à ne pas être quittée, elle s'était mise aussitôt à jouer une partie qu'elle comptait bien gagner. La visite inattendue de ce Goulimine arrivait comme un coup décisif à la fin de cette partie. Et la joueuse espérait que le coup tournerait en sa faveur. Elle savait que pour raviver un amour qui s'éteint, rien ne vaut une rivalité rappelée à propos, et elle avait résolu de sacrifier la Pologne pour assurer l'avenir de sa liaison parisienne. Gaston, de son côté, se disait que ce désagréable incident lui assurerait l'avantage à la reprise des hostilités. Il était arrivé chez Julia un peu hésitant et assez embarrassé.
Il venait liquider une association qu'il avait contractée un an auparavant, avec entrain, presque avec passion. Un an, c'est-à-dire un siècle dans le monde du plaisir, dans ce monde où les amours ne datent pas souvent par millésime. Encore faut-il un motif pour leur couper les ailes. Et si Gaston en avait un assez sérieux, ce n'était pas Madame d'Orcival qui le lui avait fourni. Il prévoyait qu'elle ne goûterait pas du tout les raisons qu'il allait mettre en avant pour s'excuser de rompre, et il craignait de manquer d'énergie au moment décisif. Une fausse manœuvre de la sirène brune l'avait remis d'aplomb. En cherchant à exciter sa jalousie, elle s'était livrée par un de ses côtés faibles. Gaston lui pardonnait tous ses anciens amants, excepté Golimine. Les amoureux des irrégulières ont de ces bizarreries. En évoquant le souvenir du comte, Julia avait donc commis une maladresse. Et l'arrivée de ce personnage suspect n'était pas faite pour la réparer. Maintenant, Gaston se sentait sûr de lui. En attendant que Madame d'Orcival rentrât de sa malencontreuse excursion en Pologne, il se promenait fiévreusement à travers le boudoir, s'arrêtant, lorsque des éclats de voix arrivaient jusqu'à lui à travers les portes et les tentures, puis reprenant sa marche agitée, de peur de se laisser aller à la tentation d'écouter. Le salon où la soubrette avait introduit le comte était contigu à celui où était resté Gaston, qui ne tarda guère à se demander pourquoi Julia n'avait pas emmené son slave dans une autre pièce. L'hôtel était vaste, et elle n'avait qu'à choisir. Il y avait justement une galerie-bibliothèque, en anglais un hall, située si loin du boudoir qu'on aurait pu s'y battre en duel ou s'y brûler la cervelle sans que le bruit fût perçu dans le réduit coquet où Madame d'Orcival se tenait de préférence. Gaston en vint bientôt à penser que Julia n'était pas fâchée de le forcer à assister presque à son entretien avec Golimine. Il se dit qu'elle allait faire en sorte que des mots significatifs parvinssent à ses oreilles, et il finit par croire que tout cela était peut-être convenu d'avance entre elle et le Polonais, en quoi il se trompait absolument. Le fait est que le diapason de la conversation ne tarda pas à s'élever beaucoup et qu'il aurait fallu être sourd pour ne pas entendre des fragments du dialogue. Gaston distinguait parfaitement les deux voix, qui parfois alternaient et parfois aussi se confondaient dans un morceau d'ensemble. La voix de Julia, une voix chaude, bien féminine pourtant, et la voix du comte, grave, mordante, saccadée, une voix à la mélingue. Et en vérité, c'était bien un drame qui se nouait chez Madame d'Orcival. Elle essayait d'en faire une opérette, mais l'enragé Polonais le poussait au noir. « C'est infâme !» criait le buridan. « Pas de gros mots !» vocalisait la diva. « Vous voulez donc que je me tue ? Est-ce qu'on se tue pour une femme ? Oui, quand on l'adore, et quand on ne peut pas vivre sans elle. » Et après ces explosions, le couplet suivant baissait d'un ton. Évidemment, le comte, reprenant le mode mineur, essayait d'attendrir l'inexorable demi-mondaine qui lui répondait par des refus en sourdine. D'où il résultait que Gaston passait par des supplices variés. Quand le duo montait aux notes aiguës, il se tenait à quatre pour s'empêcher d'entrer en scène et de jeter dehors cet étranger qui sommait Julia de le suivre au pays perdu où finissent les décavés. Un galant homme ne laisse pas malmener une frégate qui a navigué sous son pavillon. Et quand le récitatif revenait aux notes douces, Gaston enrageait de tenir dans la scénette un emploi ridicule. On a beau ne plus aimer une femme, on trouve dur d'écouter malgré soi les explications orageuses qu'elle a avec un prédécesseur, et il vous prend de furieuses envies d'intervenir. « Maintenant, grommelait-il pour se consoler, me voilà radicalement guéri. » D'ailleurs, la situation se corsait de telle sorte que le dénouement ne pouvait pas se faire beaucoup attendre, et en effet, il ne tarda guère. Julia n'aimait pas les longueurs, elle fit des coupures dans ses répliques. « Ainsi, reprit la voix de basse, vous êtes résolu à ne pas partir avec moi ?»« Parfaitement résolu, mon cher, » chanta le soprano en scandant ses notes. et après un point d'orgue. Vous me remercierez plus tard.
Non, car vous ne me reverrez jamais vivant.
Encore ? Vous parlez vraiment trop de mourir. Je n'étais pas seule quand vous avez fait chez moi cette entrée à la tartare. Souffrez donc que je vous quitte et que, en dépit de vos discours sinistres, je vous dise « Au revoir, dans 3 ou 4 ans, quand vous aurez trouvé une autre mine d'or en Californie, ou ailleurs, je ne tiens pas à la provenance. »
« Allez rejoindre votre amant !» tonna la basse profonde. « Je vous méprise trop pour vous tuer, mais je vous maudis, et vous verrez ce que vaut la malédiction d'un mort. »
Après cette phrase de cinquième acte, il y eut le bruit d'une porte fermée avec violence. La toile venait de tomber. La pièce était finie. Gaston s'intéressait fort peu à ce Polonais qui abusait vraiment des mots à effet. Mais les froides railleries de Madame d'Orcival l'avaient écœuré, et il l'attendit de pied ferme. Elle rentra calme, presque souriante. De la scène du salon, il ne lui restait qu'un peu de flamme dans les yeux et un peu de rougeur aux joues. « Enfin, dit-elle, je suis délivrée de cet énergumène. Mariette a bien fait de le laisser rentrer. Maintenant, il ne reviendra plus. »
« Je le crois, dit froidement Gaston.
Est-ce que vous avez écouté ?
Écoutez, non. Entendu, oui, quelques mots.
Et pensez-vous que le comte Golimine m'aime comme nous voulons être aimés, nous autres femmes, avec fureur, avec rage, jusqu'au suicide, inclusivement ?
Quand on veut se tuer, on ne le crie pas si haut.
Je vous ai déjà dit, mon cher, que vous ne connaissiez pas Golimine. C'est un fou qui ferait sauter Paris, et lui avec, pour satisfaire une de ses fantaisies.
Peu m'importe ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. J'espère bien ne jamais le retrouver sur mon chemin.
Vous avez raison, mon ami. Je vous parle beaucoup trop de cet insurgé, et je vous prie de me pardonner les désagréables instants que vous venez de passer. Vous auriez pu vous offenser d'une situation que je n'avais pas créée, et vous avez bien voulu me permettre de renvoyer mon persécuteur. Je vous dois vraiment de la reconnaissance, et vous savez que je paye toujours mes dettes, dit Julia, avec un sourire à fendre la glace d'un cœur octogénaire.
En attendant que je paye celle-là, venez que je vous verse une tasse de ce thé qui m'est arrivé hier de Moscou, sans passer par Varsovie.
Mille grâces, répondit Gaston. Je vais être obligé de vous quitter à minuit. Il est 11h30, et j'ai à vous parler.
Julia avait déjà repris, sur sa chaise longue, la pose savamment étudiée qu'elle choisissait quand elle voulait charmer. À ce discours, elle se redressa comme une couleuvre froissée et demanda d'un ton bref « Qu'avez-vous donc à me dire ?»«
Que je me décide à entrer dans la magistrature. »
« Je comprends que pour m'annoncer cette grave nouvelle, vous m'ayez fait manquer l'opéra. Alors, vous allez être obligé de mettre une robe noire et de couper vos moustaches ?»«
Non, pas encore. Je vais débuter comme attachée au parquet, mais je vais être forcée de réformer ma façon de vivre. »
D'un regard clair et froid comme une lame d'épée, Madame d'Orcival interrogea le visage de son amant. C'est une rupture que vous me notifiez en ces termes gracieux ? Demanda-t-elle après un court silence.
Une séparation, dit le jeune homme en s'inclinant.
Le mot est plus honnête. Ce que vous faites ne l'est pas. Gaston tressaillit sous l'injure, mais il se contint assez pour répondre avec calme.
Vous n'avez jamais cru, je pense, que nos relations dussent être éternelles.
J'ai toujours agi avec vous en galant homme. Je vous quitte parce que la carrière que je veux suivre m'y force, et je sais à quoi m'oblige cette pénible nécessité.
Vous voulez dire que demain, dans le dernier bouquet de gardénia que je recevrai, vous mettrez un chèque à mon ordre ?
Je vous le renverrai, mon cher. Je ne veux pas de votre argent sans vous. Qu'en ferai-je ?
Je suis riche, et s'il me plaît de vous donner un successeur, je n'aurai pas besoin de le prendre pour sa fortune. Pas plus que je ne vous avais pris pour la vôtre. »
Gaston s'inclina sans répondre. La scène du Polonais l'avait cuirassé contre les reproches et contre les flatteries.
« C'est sans doute votre oncle, le juge, qui vous a mis en tête la vertueuse idée de lui succéder un jour ? Reprit Julia. Et vous osez prétendre qu'il n'a pas décidé aussi de vous marier ? L'un ne va pas sans l'autre. Un garçon n'est jamais magistrat qu'à moitié. Vous oubliez que mon oncle est célibataire. À telles enseignes que vous comptez bien hériter de lui un jour. Raison de plus pour qu'il tienne à vous confier le soin de perpétuer son nom dans la robe. À la seconde génération, les Darcy dont vous serez le père mettront une apostrophe après le dé. Gaston sentit que la patience allait lui manquer et il fit un mouvement pour sortir. Julia s'était levée en pied. Ses yeux lançaient des éclairs. « Mon cher, dit-elle d'une voix qui sifflait entre ses dents blanches, je sais maintenant ce que vous valez et je plains la femme que vous épouserez, à moins qu'elle ne vous traite comme j'aurais dû vous traiter. Et c'est ce qu'elle fera certainement. Vous n'êtes pas de la race de ceux qu'on aime, monsieur Gaston Darcy. » Puis, changeant de ton tout à coup, « Serait-ce la belle Havanaise, la veuve aux 600 000 livres de rente, qui met des pompons rouges à ses chevaux et qui mène à 4 mieux qu'un cocher anglais, la marquesa de Barrancos? On m'a dit que vous lui faisiez une cour assidue. Vous n'êtes pas le seul et... » Darcy n'y tint plus. Il ouvrit brusquement la porte du boudoir, traversa le salon en courant et ne s'arrêta qu'au bas de l'escalier pour prendre son chapeau et son pardessus. Mariette avait été consignée dans la chambre à coucher par Madame d'Orcival. Les autres domestiques faisaient la fête à la cuisine. Il sortit de l'hôtel sans rencontrer personne. Pendant qu'il descendait à grands pas le boulevard Malesherbes, Julia, debout, accoudée sur la console qui portait le groupe de Clodion, disait tout bas « Quitté ! Il m'a quitté ! Sotte que j'étais ! Je le prenais pour un niais et je m'imaginais que je l'emmènerais un jour à m'épouser. Pourquoi pas ? Eva est bien devenue princesse Gloukov et elle avait commencé plus mal que moi. Sa mère était marchande de pommes. Oui, mais Darcy n'est pas russe. Darcy est un bourgeois de Paris, inaccessible à l'entraînement. Il me glisse entre les doigts au moment où je croyais le tenir. C'est bien fait. Cela m'apprendra à viser plus haut. Mais quelqu'un l'a poussé à rompre. Je saurai qui. Et je me vengerai. Oui, je me vengerai de lui, de son oncle, de son ami Nointel. » Et comme illuminé par une inspiration subite, « Golimine m'y aidera. Il m'aime, celui-là. Et il ne recule devant rien. J'ai bien choisi mon heure, en vérité, pour le congédier. Mais il ne tient qu'à moi de renouer avec lui. Il est encore à Paris, car il ne savait pas que je refuserais de le suivre. Et il était ici il y a 20 minutes. Si je lui écrivais... Oui, mais j'ai oublié son adresse. Il en a changé si souvent depuis 6 mois. Elle doit être sur la carte qu'il a laissée hier, quand j'ai refusé de le recevoir. Où est-elle, cette carte ? Ah, je me rappelle que Mariette l'a posée sur la table de boules qui est au milieu de la galerie. » Quand Madame d'Orcival voulait une chose, l'action suivait vite l'idée. Elle prit aussitôt le chemin du hall qui se trouvait à l'autre bout de l'appartement du premier étage. Le salon était éclairé, le hall ne l'était pas. Elle s'était donc armée d'un flambeau. En y entrant, elle fut assez surprise d'y trouver une bougie qui brûlait, placée sur un dressoir. La lueur incertaine de cette bougie pénétrait à peine dans les hautes et profondes embrasures des fenêtres à vitraux gothiques. Et lorsque Julia arriva devant la dernière, elle crut entrevoir un homme collé contre les carreaux armoriés. Elle n'était pas peureuse. Elle avança. Et en reconnaissant à sa pelisse de fourrure cet homme qui avait l'air d'écouter à la fenêtre, elle s'écria « Golimine, que faites-vous ici? Que signifie ?» Et presque aussitôt « Pendu » murmura-t-elle, « il s'est pendu !» Sa main laissa tomber le flambeau qu'elle portait et son sang se glaça dans ses veines. La salle était immense, le plafond se perdait dans l'ombre et la bougie qui achevait de se consumer sur le dressoir éclairait l'embrasure de ses lueurs mourantes. L'obscurité complète eût été moins effrayante que ses reflets intermittents qui par moments illuminait les traits convulsés de Golimine et par moments laissait à peine entrevoir la hideuse silhouette d'un pendu. Julia avait reculé d'horreur et elle restait appuyée contre la boiserie de la bibliothèque, pâle, tremblante, les mains crispées, les yeux fixes. Elle voulait crier et la voix lui manquait. Elle voulait fuir et la terreur la clouait sur place. Elle voulait détourner sa vue de ce cadavre accroché et elle le regardait malgré elle. Il la fascinait. C'était bien Golimine. L'enragé slave avait tenu sa promesse et ses dernières paroles vibraient encore aux oreilles de Madame d'Orcival. « Vous saurez ce que vaut la malédiction d'un mort. » Elle les comprenait maintenant, ces paroles menaçantes, et par un phénomène de lucidité dû à la surexcitation de ses nerfs, elle voyait la scène du suicide telle qu'elle avait dû se passer. Golimine, furieux, traversant l'appartement vide et se jetant dans cette galerie où il savait bien que personne ne viendrait. Il la connaissait à merveille, car au temps où Julia l'aimait, il ne sortait guère de l'hôtel. Il avait eu le sang-froid de chercher à tâtons un flambeau et de l'allumer. Il avait arraché une embrasse des lourds rideaux de tapisserie, traîné contre la fenêtre un tabouret sur lequel il était monté et qu'il avait repoussé du pied, après s'être passé autour du cou un nœud coulant fait avec l'embrasse préalablement attachée à l'espagnolette. Il n'en faut pas plus pour mourir. Voilà donc sa vengeance, pensait Julia. Il s'est tué chez moi pour me perdre par le bruit que fera son suicide. Demain, tout Paris saura que Golimine, ruinée, déshonorée, s'est pendue dans l'hôtel de sa maîtresse. On dira bientôt de sa complice, car les histoires oubliées reviendront à la mémoire des femmes qui me jalousent et des hommes qui me détestent. Qui sait si on ne dira pas que j'ai assassiné Golimine? Et Darcy, qui a entendu ma querelle avec ce malheureux, ne démentira peut-être pas ceux qui diront cela. Puis avec cette mobilité d'esprit, qui était un de ses moindres défauts, elle se prit à regretter le mort. « Fou !» se disait-elle, « plus fou cent fois que je ne pouvais le croire. » Je savais bien qu'il avait plus de cœur que tous les sots qui le méprisaient, mais se tuer à 30 ans, quand il lui restait assez de jeunesse, de courage et d'intelligence pour refaire sa fortune. Ah, oh, celui-là m'a aimé. Et si je pouvais le ressusciter, comme je lui dirais, je suis prête à te suivre. Et frappée tout à coup d'une idée. « S'il n'était pas mort, murmura-t-elle, si, en coupant ce cordon, non, non, il y a trop longtemps, ce serait inutile. Mais je ne puis pas rester ici, il faut agir, sans quoi on m'accuserait. Je vais appeler Mariette, envoyer prévenir la police. » Elle se rappela alors qu'il n'y avait pas de sonnette mettant en communication la galerie avec la chambre à coucher où elle avait consigné la soubrette. Et elle marcha vers le dressoir, pour y prendre la bougie qui avait éclairé les préparatifs du suicide et qui brûlait encore. Le flambeau qu'elle portait lorsqu'elle était entrée s'était éteint en tombant et elle n'osait pas traverser sans lumière cette longue galerie où elle laissait derrière elle un cadavre. Elle passa en détournant la tête devant la sinistre fenêtre et elle allait mettre la main sur le bougeoir quand elle vit que près de ce bougeoir il y avait un papier, une feuille arrachée d'un carnet. « Il a écrit, » dit-elle tout bas, « à moi sans doute, un adieu. » Et elle lut ces mots tracés au crayon. « C'est Julia d'Orcival qui m'a tuée. Je désire que la somme contenue dans mon portefeuille soit distribuée aux pauvres de Paris, et je prie les autorités françaises de faire remettre aux personnes qui les ont écrites les lettres qu'on y trouvera. » « Des lettres ?» murmura Julia. « Les miennes, peut-être ? Oui, il les a conservées, il me l'a dit. Il a essayé de m'effrayer en me rappelant qu'il avait entre les mains la preuve qu'il m'avait intéressée autrefois à ses affaires et sa dernière pensée a été de livrer le secret de notre association. Ah, c'est maintenant que je sais ce que vaut la malédiction d'un mort. » Elle resta quelques instants affaissée sous ce nouveau coup, puis se redressant. « C'est infâme ce qu'il a fait là. Il comptait qu'un de mes domestiques découvrirait son corps et que ce papier serait remis au commissaire de police sans que je pusse m'y opposer. Il ne prévoyait pas que ce serait moi qui le trouverais, mais je l'ai, et personne ne le verra, car je vais le brûler, et personne non plus ne verra mes lettres. » Elle exposa le feuillet à la flamme de la bougie, et en un clin d'œil, il ne resta plus de cet étrange testament que des cendres. Mais les lettres étaient dans la poche du mort. « Je n'oserai jamais les prendre, » dit-elle tout bas. L'embrasure que Golimine avait choisie pour mourir était à 6 pas du dressoir, et le cadavre se détachait comme un fantôme noir sur les vitraux clairs. La galerie s'emplissait de ténèbres. Partout, le silence, un silence de tombe. Julia, terrifiée, frissonnait de la tête aux pieds. « Il le faut, » dit-elle tout bas, « cette bougie va s'éteindre, et Mariette peut venir, je ne veux pas qu'elle me trouve ici. » Elle saisit le bougeoir d'une main tremblante et elle avança vers la fenêtre. Sa gorge se serrait, ses lèvres étaient sèches et elle éprouvait à la racine des cheveux la sensation que cause le contact passager d'un fer rouge. Chaque pas qu'elle faisait retentissait douloureusement dans son cerveau. Parfois, il lui semblait qu'elle entendait une voix, la voix de Golimine qui l'appelait. En arrivant à l'embrasure, elle ferma les yeux, et peu s'en fallut qu'elle ne laissât encore une fois tomber son flambeau. Les pieds du pendu touchaient presque le parquet, car le cordon s'était allongé sous le poids de ce grand corps. Sa tête s'inclinait sur sa poitrine, et son visage disparaissait dans le collet de fourrure de sa pelisse. Mais pour trouver le portefeuille, il fallait toucher le cadavre, fouiller les habits. « Non. » « Je ne peux pas, » murmura Julia sans oser lever les yeux. Et si elle eût été obligée de porter la main sur ce mort, de palper cette poitrine où un cœur ardent avait battu pour elle, l'horreur eût été plus forte que l'intérêt. Mais il était écrit qu'elle irait jusqu'au bout. Ses yeux qu'elle tenait baissés, de peur de revoir les traits de l'homme qui l'avait adoré, ses yeux aperçurent, dépassant une des poches de côté de la pelisse, le bout d'un portefeuille. Certes, Golimine l'avait placé là avec intention. Il tenait à ce qu'on le trouvât, et ce n'était pas pour être agréable à son ancienne maîtresse qu'il avait pris cette précaution. Madame d'Orcival comprit cela, et ses scrupules s'envolèrent. Elle posa le bougeoir sur la table de boule où devait se trouver encore la carte de visite du comte, prit du bout des doigts le portefeuille et l'ouvrit. Elle en tira d'abord des billets de banque, 3 liasses de 10 000, les dernières cartouches du vaincu de la vie parisienne, le viatique mis en réserve pour passer à l'étranger. Julia regarda à peine ses papiers soyeux, que d'ordinaire elle ne méprisait pas tant, et ouvrit d'une main fiévreuse les autres compartiments du portefeuille. Elle y trouva ce qu'elle cherchait. Des lettres attachées ensemble par un fil de soie. Des lettres d'où s'exhalait un parfum doux comme l'odeur du thé. Des reliques d'amour qui n'étaient pas toutes de la même sainte, car Golimine avait eu beaucoup de dévotions particulières. Madame d'Orcival les prit, remit les billets de banque dans le portefeuille dans la poche du mort, et sortit de la galerie sans oser se retourner. Quand elle se retrouva dans son salon, joyeusement éclairée, le sang-froid lui revint. Elle le traversa, rentra sans bruit dans le boudoir et s'y enferma au verrou. Mariette aurait pu entrer sans qu'elle l'appelât, et elle ne voulait pas que Mariette vît les lettres. Son plan était déjà arrêté. Elle avait résolu de sonner la femme de chambre, de l'envoyer sous un prétexte quelconque dans la bibliothèque et d'attendre que cette fille revînt lui annoncer qu'elle y avait trouvé un pendu. Pour que personne ne lui demandât d'explication, il fallait que personne ne crût qu'elle avait trouvé le cadavre avant tout le monde et ne l'accusât d'avoir touché au portefeuille. Mais d'abord, Julia voulait brûler ses lettres. C'était pour pouvoir anéantir les preuves de son ancienne liaison avec Golimine qu'elle avait eu le terrible courage de les prendre. Elle allait jeter le paquet au feu, mais elle se ravisa. Il lui sembla qu'il était plus gros qu'il n'aurait dû l'être s'il n'avait contenu que sa correspondance à elle. Elle défit précipitamment le cordonnet de soie et elle vit que les billets doux avaient été divisés par le comte en 4 paquets. Ce fougueux amant mettait de l'ordre dans ses papiers de cœur comme s'il se fût agi de papiers d'affaires. Julia avait sa liasse. Elle reconnut tout de suite son écriture et elle fut assez surprise de trouver, épinglée sur cette liasse, une étiquette portant cette mention très explicite « Madame d'Orcival, boulevard Malesherbes, 199 ». « On aurait su à quoi s'en tenir », dit-elle avec amertume. Elle fut encore plus étonnée quand elle s'aperçut que chacun des 3 autres paquets portait aussi un nom et une adresse. Pourquoi a-t-il fait cela ? Se demanda-t-elle. Voulait-il se servir de ses lettres pour exploiter celles qui les ont écrites ? On l'a accusé autrefois d'avoir abusé par ce procédé des faiblesses qu'une grande dame avait eues pour lui. Non, je crois plutôt qu'il se réservait de prendre un parti après m'avoir vue. Si j'avais consenti à le suivre à l'étranger, peut-être aurait-il cherché à profiter des secrets qu'il possédait ? Il lui restait fort peu d'argent, et ce n'est pas à moi qu'il en aurait demandé. Quand il a pris la résolution de mourir parce que je refusais de partir avec lui, il n'a plus songé qu'à se venger de moi. Il savait bien que le commissaire de police n'hésiterait pas à ouvrir une enquête sur la d'Orcival, et que pour éviter un scandale, il s'empresserait de détruire ou de restituer les autres correspondances. Je ne suis qu'une femme galante, moi. Tandis que mes rivales sont des femmes mariées, j'en suis sûre. Et après avoir réfléchi quelques secondes, « Si je le voulais pourtant, les noms y sont. Il ne tiendrait qu'à moi de faire ce que Golimine aurait peut-être fait s'il ne s'était pas tué. Pourquoi aurais-je pitié de celle qui me méprise ? La baronne du Brillage a changé son jour d'opéra parce que sa loge est à côté de la mienne et qu'elle ne veut pas être ma voisine. » Oui, mais il ne s'agit pas d'elle. De qui sont ces lettres ? Madame d'Orcival lut le nom qui désignait la destinataire du premier paquet. « Je ne la connais pas, murmura-t-elle. Une bourgeoise, sans doute. Si c'était une des grandes mondaines qui vont au bois et aux premières, j'aurais entendu parler d'elle. Pauvre femme ! Dans quelle transe va la jeter la nouvelle du suicide de Golimine ? Et comme elle me bénira quand je lui rendrai ses lettres, car je veux les lui rendre. Pourquoi chercherais-je à lui nuire ? Voyons les autres. » À peine eut-elle jeté les yeux sur la seconde liasse qu'elle s'écria. « Elle ! Ses lettres sont d'elle ! Ah, je savais bien qu'il avait été son amant, quoiqu'il l'ait toujours nié. La marquise s'est donnée à un aventurier, et tous ces imbéciles qui ont lapidé Golimine avec des boules noires se disputerait l'honneur d'épouser cette créature si elle ne dédaignait leurs hommages. Ah, je les lui rendrai peut-être, ces lettres, mais je ferai mes conditions, et ce n'est pas de l'argent que j'exigerai. » À ce moment, on frappa doucement à la porte du boudoir, et avant de tirer le verrou, Madame d'Orcival cacha la correspondance dans la poche de son peignoir. Il y avait un 3e paquet, dont elle n'avait pas encore regardé la suscription. « C'est toi, que veux-tu » demanda-t-elle à la soubrette qui répondit avec assurance. « Madame m'avait commandé de rester dans la chambre à coucher. Je m'y suis endormie devant le feu, et en me réveillant, j'ai vu qu'il était plus de minuit. J'ai pensé que Monsieur Darcy devait être parti. Depuis 1 heure au moins, mais je n'ai pas eu besoin de toi. » « Va me chercher le Figaro qui est sur la table de boule dans la bibliothèque et occupe-toi ensuite de ma toilette de nuit. » La camériste disparut avec la prestesse d'une souris. Julia, restée seule, alla droit au bonheur du jour dont le bois de rose cachait un tiroir secret. Elle y serra les lettres et elle attendit la lugubre nouvelle qu'elle était parfaitement préparée à recevoir. 3 minutes après, Mariette, effarée, se précipita dans le boudoir en balbutiant. « Madame, oh mon Dieu, si vous saviez ce que je viens de voir, le comte !»« Eh bien, est-ce qu'il s'est caché dans l'hôtel pour m'espionner ?»« Il est mort, madame, il s'est pendu !»« Pendu ?»« Oui, madame, à une des fenêtres de la bibliothèque. Je ne sais pas comment je ne me suis pas évanouie de peur. » « C'est épouvantable !» s'écria madame Dorcival, qui n'eut pas trop de peine à pâlir. « Appelle le valet de pied, le cocher, dis-leur qu'il court chercher un médecin, prévenir le commissaire de police, le médecin d'abord. Il est peut-être encore temps de rappeler à la vie ce malheureux. »